Alors, bonjour. Régent a choisi de mettre son veston pour présenter. J'ai choisi de l'enlever. Et je trouve que c'est une belle image qui montre la complémentarité entre les écoles de l'économie et les bibliothèques. Alors aujourd'hui, ma présentation va comprendre quatre sections. La première, c'est quelques remarques liminaires. Ensuite, je vais vous parler des intersections potentielles que j'ai vues. Vous parler un peu aussi de notre expérience vécue de collaboration avec l'EPSI et évidemment conclure. Alors, si je commence par les remarques liminaires, vous connaissez comme moi la relation d'affection que les bibliothèques entretiennent avec les opérateurs booléens et ou sauf et les diagrammes de Venn. Alors, je vais prendre cette analogie-là pour vous dire que malgré notre intérêt commun, les bibliothèques et les sciences de l'information, je pense que les cultures, les contextes d'action et les contraintes respectives ont fait en sorte que les bibliothèques et les écoles de bibliothéconomie ont plus souvent qu'autrement entretenu une relation de type « ou » et même parfois « sauf ». Soyons francs. Alors aujourd'hui, je vise bien entendu à vous parler du « et », les projets et les enjeux qui nous unissent et que nous pourrions explorer, plus étroitement ensemble. Et ce colloque revêt pour moi une importance stratégique. Vous avez à l'écran une citation qui dit que les bibliothèques en tant qu'institutions arrivent à la fin de leur vie utile. C'est une citation qui peut paraître alarmiste, mais je pense qu'on ne peut pas nier le fait que le monde de l'enseignement supérieur et les bibliothèques vivent présentement des changements très rapides, des mutations profondes, à l'instar d'ailleurs de l'industrie du divertissement et du monde de l'information et de la culture. Les besoins sont donc immenses et la collaboration bienvenue pour mieux comprendre notre écosystème et explorer les transformations en cours afin de pouvoir adapter notre offre de services en conséquence. Et les bibliothèques universitaires ne peuvent donc que profiter des liens avec les chercheurs de leur institution pour concevoir des stratégies à déployer face à ce changement, et ce dans différentes disciplines. Nos collaborations peuvent par exemple se faire avec la faculté de droit, nombreuses questions de droits d'auteur et de licence d'utilisation dans le contexte du domaine numérique, avec celles d'aménagement pour réinventer nos espaces en fonction des nouveaux besoins, avec celles des sciences de l'éducation pour tout le volet des transformations des pédagogies et le lien avec les compétences informationnelles, avec le département d'anthropologie pour étudier le comportement informationnel des étudiants et j'en passe. Bien entendu, au premier rang arrivent les écoles de bibliothéconomie, qui sont particulièrement proches des enjeux que l'on discute. Ici, je vous ai mis l'extrait, le graphique n'est pas très visible, mais d'un article qui est paru la semaine dernière dans Globe and Mail qui montre un peu l'évolution rapide que nous vivons aujourd'hui. Ce qui est à retenir là-dedans des deux ou trois faits saillants, c'est d'abord les téléphones intelligents qui sont passés de 1,5 milliard d'appareils en 2009 à 5 milliards un an plus tard. Et ça a un effet important sur les bibliothèques. Les applications aussi mobiles qui sont passées d'un milliard en 2009 à 3 milliards en 2010. Et surtout, je dirais, l'évolution de la connaissance humaine. Comment tu fais pour avoir ton...
Le pointeur.
Ici.
Le petit bouton rouge.
La connaissance humaine qui, en 2005, était ici, et donc dans 5 ans, qui va doubler. Et ce qui est intéressant aussi, c'est les propos de l'auteur William Gibson, qui est un auteur en science-fiction, un des plus grands auteurs canadiens, qui dit que les inventeurs des nouvelles technologies sont incapables d'évaluer les impacts comportementaux qu'ils vont induire dans la société. Ils sont incapables de prédire la durée de vie de leurs inventions. Et dernièrement, et la dernière chose, c'est qu'ils constatent que les répercussions de ces inventions-là les plus surprenantes arrivent dans le monde des industries culturelles, donc directement touchent les bibliothèques. Alors, les enjeux que je vais vous présenter aujourd'hui sont fonction, évidemment, du contexte dans lequel j'évolue. Alors, je vais vous parler très rapidement de l'UDM. Alors, l'Université de Montréal, avec ses écoles affiliées, c'est le premier pôle d'enseignement et de recherche au Québec. C'est le deuxième corps étudiant en importance au pays. Et l'Université de Montréal figure aussi au quatrième rang des universités les plus dynamiques en recherche au Canada. Et j'achève en vous disant que le Time Higher Education inclut l'UDM dans le groupe des meilleures universités de la planète. Alors, c'est un petit peu de promotion. Et du côté des bibliothèques, bon, c'est environ un système qui regroupe 300 employés, un budget d'environ 30 millions, 16 bibliothèques, une cartothèque et une didactèque. Donc, c'est juste simplement pour vous situer un peu le cadre dans lequel j'évolue. J'arrive maintenant aux intersections potentielles. Et ce que je vous dirais ici, c'est évidemment les bibliothèques, à l'instar de n'importe quelle organisation, à l'instar de tout être humain d'ailleurs, on évolue dans un contexte qui comprend différentes composantes, technologie, la sociologie, et des courants politiques, et des courants économiques, et des courants environnementaux. Et si j'avais à choisir ou à marquer le changement qui nous caractérise depuis ces 20 dernières années, je dirais que c'est la perméabilité des bibliothèques face à ce contexte plus général. C'est vraiment, on ne travaille plus en autarcie, on ne veut plus travailler en autarcie non plus, et c'est peut-être le plus grand changement. Et vous allez voir que les intersections que je vais vous présenter aujourd'hui se situent justement au carrefour du contexte global des bibliothèques et les bibliothèques elles-mêmes. Alors, première intersection que j'ai vue, c'est les presses universitaires. Nous assistons présentement à une consolidation du monde de l'édition savante qui se traduit par la fermeture des petits éditeurs. Les presses universitaires sont placées devant le même dilemme que les grands éditeurs, c'est-à-dire assurer une transition vers l'édition électronique tout en générant des revenus, minimalement en équilibrant revenus et dépenses dans le cas des presses universitaires. Devant l'importance des investissements requis et du fait que les presses pour les universités passent d'un centre de revenus à un centre de coûts, alors ça c'est assez important, surtout dans un contexte de compression budgétaire, il y a plusieurs universités qui ont abdiqué et qui ont fermé leurs presses universitaires. Il y a plusieurs exemples, je ne les citerai pas aujourd'hui, mais c'est une situation qui est inquiétante, surtout pour un universitaire. Est-ce que la connaissance qui est générée à l'université n'a de valeur que lorsqu'elle est économiquement viable? C'est une question importante à se poser ici. Et nous, on considère que la transmission des connaissances fait partie de la mission de l'université. Alors, pour les bibliothèques, ça pose différentes possibilités d'intersection. D'abord, de développer un point de vue externe sur l'avenir des presses universitaires. Quels sont les grands courants de pensée? Quels sont les modèles qui sont à l'essai présentement au sein d'institutions ou de regroupements? Recenser les divers modèles organisationnels, particulièrement dans le contexte de la francophonie. Proposer aussi une approche qui soit adaptée à notre contexte. L'avenir passe, je crois, par un travail en collaboration. Il y a plusieurs presses américaines présentement qui sont en train de se regrouper ensemble pour avoir un portail ou une plateforme commune pour la diffusion de leurs livres. Purdue travaille aussi sur un autre modèle. Donc, il y a aussi des avenues à explorer pour publier la production intellectuelle complexe. Nos chercheurs ne publient pas seulement des livres, ils vont publier aussi des bases de données relationnelles, du multimédia, donc il faut arriver à publier ces productions-là. Et je dirais aussi de façon plus large, il y a plusieurs universités qui ont développé des centres de soutien à la communication savante. Alors, il faut s'interroger un peu sur la structure, la pertinence de tel service. Alors ça, c'est des exemples concrets d'avenues où je vois où on pourrait avoir une collaboration avec les écoles d'économie et d'autres. Un autre exemple, c'est les données de recherche. Il y a un nombre grandissant de pays et d'organismes subventionnaires qui exigent maintenant que leurs chercheurs ou scientifiques rendent leurs données de recherche librement accessibles. C'est essentiel parce qu'on prévoit qu'au cours des 5 prochaines années, on va produire dans le monde plus de données de recherche qu'on en a produit depuis le début de l'histoire humaine. Ça présente aussi un potentiel important parce que la réutilisation et la combinaison d'ensemble de données existantes mènent à la création de nouveaux savoirs. La bonne gestion des données évite que des travaux de recherche soient répétés inutilement, permet la reproduction et la validation des résultats de recherche et favorise les collaborations de recherche. Il y a donc un nouveau besoin qui est en train de naître dans les institutions, soutenir la gestion, la découverte, la réutilisation et la préservation des données de recherche. Encore ici, une avenue d'intersection entre nous, donc de recenser les approches politiques et technologiques qui sont retenues ailleurs, élaborer aussi des politiques institutionnelles et des outils locaux pour soutenir localement notre communauté de recherche, assurer une bonne gestion des données de recherche est complexe, sur le plan de la description, des métadonnées, des formats, les types de données, etc., et j'en passe. Donc, il y a encore là une autre avenue intéressante. Les outils de découverte. The Web is Dead, c'était la page frontispice d'un périodique américain. C'est un titre provocateur, mais il reste néanmoins que les appareils mobiles ont un impact beaucoup plus grand qu'on le pensait au départ. Il y a la moitié des étudiants qui accèdent à l'Internet à partir de téléphones intelligents, c'est une étude de 2010. Il y en a trois quarts qui utilisent quotidiennement les textos pour communiquer. On a aussi une omniprésence des outils sociaux. Si Facebook était un pays, il arriverait au troisième rang en termes de population dans le monde. Et évidemment, Google. Alors, ce qu'il y a à faire au niveau des outils de découverte, c'est rapidement, il faut développer des services pour les utilisateurs d'appareils mobiles en tenant compte des interrelations qui existent avec les autres services sur le campus. Les usagers actuellement logent sur plusieurs environnements virtuels. Lesquels? Comment les utilisent-ils? Comment on peut s'y intégrer efficacement? Il faut repenser notre site Web, mais en même temps qu'on le repense, il faut déjà penser à l'éliminer. Parce que si la moitié de nos gens sont sur les appareils mobiles, ça c'est en 2010, on peut imaginer qu'en 2012, ça va être la grande majorité. Alors, l'accès à l'information ne se fera pas via un site web, mais on va se faire via une interface mobile. Donc, il faut les développer. Donc, il faut commencer à réfléchir à la question. Et le dernier point, c'est une réinvention. On peut prendre là-dessus. Donc, il faut repenser ce qu'on fait. Et ici, j'ai donné l'exemple d'un quotidien japonais qui présente l'actualité sous forme de manga parce que les Japonais en sont friands. Donc, ils ont changé leur modèle d'article. Ils font maintenant en bande dessinée. Environnement numérique de la recherche, bien ça, on le sait, les TIC, les ressources électroniques, les outils sociaux ont profondément modifié comment les chercheurs travaillent aujourd'hui. Et ils utilisent plusieurs environnements virtuels, ils utilisent plusieurs logiciels. Il y a aussi tout le contexte de l'interdisciplinarité, l'internationalisation et les nombreux partenariats. Donc, tout ça, ça a une influence sur la façon comment travaillent les chercheurs. Et l'intersection ici, c'est de savoir comment les chercheurs vont travailler dans les prochaines années. Et c'est sûr que ça va évoluer vers un environnement numérique de recherche. Et ici, je vous ai présenté deux exemples. Le premier, c'est le King College à Londres, qui est un environnement de recherche virtuelle. Donc, c'est un environnement qui permet vraiment aux chercheurs de partager les informations, de développer des nouvelles connaissances, de gérer leurs recherches, d'intégrer les technologies, etc. Et la même chose au niveau de mon deuxième exemple, c'est le Virtual Ethics Share. C'est développé à l'Université du Minnesota. La même chose, c'est un outil de partage ici, mais c'était développé par le Centre de bioéthique, les bibliothèques, le département d'informatique et de génie. Donc, on voit encore des convergences entre différentes sphères de l'université pour développer ces nouveaux environnements-là. Les environnements numériques d'apprentissage, donc, qui sont le pendant, mais qui sont beaucoup plus matures comme environnement. Je suis allé trop vite dans mes... Alors aujourd'hui, on sait très bien, les bibliothèques, comment s'intégrer aux environnements numériques d'apprentissage. Par exemple, de mettre les coordonnées du bibliothécaire disciplinaire, d'intégrer des boîtes de recherche, de faire un lien automatique vers le guide disciplinaire d'un cours, faciliter le passage aussi d'un système à l'autre. Donc, c'est du connu. Par contre, il y a un nombre grandissant d'objets numériques qui sont créés à l'université. La multiplication et la complexité des licences, de même que la réutilisation importante de matériel existant dans les ENA, suscitent de nombreuses questions par les membres de notre communauté. Et actuellement, au Canada, les universités canadiennes ont des licences avec des sociétés de gestion de droits d'auteur pour éviter que les professeurs aient à négocier à la pièce l'utilisation qu'ils font dans leur cours des ressources sous droits d'auteur. Et une licence présentement, il y a présentement une négociation qui est en cours et les coûts exigés par ces sociétés-là ont monté d'un facteur 10. Et là, les universités commencent à se poser des questions. Et là encore, il y a de l'intérêt ici pour faire de la recherche, c'est-à-dire de savoir est-ce que les ententes sont vraiment nécessaires puisque les bibliothèques ont déjà beaucoup d'outils qu'on offre sous licence. Maintenant, pour répondre à la question, il faut savoir qu'est-ce que les profs font dans les quelles sont les ressources qu'ils utilisent dans leurs cours, quelles sont les ressources qu'ils utilisent dans les plateformes numériques d'apprentissage. Et ça commence à être un champ assez vaste. Et en plus, bon, il y a une réforme sur le droit d'auteur. Donc, toutes ces questions-là de droit, aussi d'utilisation des ressources et comment les professeurs travaillent, bon, c'est des recherches qui sont intéressantes. Alors, je vous ai mis comme deux acétates ensemble. Mon troisième volet, c'est intersection bonus, parce que je ne savais pas que j'allais avoir le temps de les passer, mais je pense que j'ai le temps, oui. Alors, la première, c'est une question de visibilité. Nos usagers aujourd'hui arrivent de plus en plus difficilement à faire le lien entre les ressources qu'ils utilisent et qui sont payées par la bibliothèque et l'Internet. C'est-à-dire que pour eux, tout ce qu'ils utilisent est par défaut gratuitement disponible, peu importe qui l'a payé. Donc, on a vraiment une problématique de visibilité sur laquelle il faut travailler. On doit arriver à communiquer plus efficacement notre valeur ajoutée parce que présentement, ils n'ont pas l'impression que les ressources qu'ils utilisent sont payées par la bibliothèque. Mesure d'impact, il y a beaucoup aussi de questionnements actuellement dans la communauté des bibliothèques universitaires à ce sujet, je dirais même au niveau des universités, parce qu'on se demande est-ce qu'on a encore besoin des bibliothèques. Donc, il va falloir travailler pour rendre compte plus adéquatement de l'impact des bibliothèques sur les divers indicateurs académiques. Et je vais en nommer quelques-uns, la réussite, la persévérance, la production de recherche, le recrutement des étudiants, la rétention, la durée des études, les demandes de subventions, les succès qu'on peut avoir, le rang de l'université au palmarès. Donc, il faut arriver à démontrer concrètement ce qu'on apporte à l'université comme bibliothèque. Encore là, c'est un champ où les bibliothèques de notre côté, on ne peut pas arriver à faire ça tout seul. On a besoin d'aide. Métadonnées et indexation des contenus, on en a parlé un peu hier. La découverte, ça tient pas seulement à la convivialité et la performance des systèmes qui sont mis à la disposition de nos usagers, mais ça, bien entendu, ça a à faire avec la structure, la qualité des métadonnées qui sont utilisées pour décrire les différents types de documents. Le catalogage a connu une grande stabilité au cours des dernières décennies. On peut penser aux normes, aux systèmes de classification de vedettes matières. Mais il est depuis quelques années en pleine révolution. De nouveaux besoins se font sentir, par exemple, pour décrire les contenus touchés dans les données de recherche, pour refléter dans les métadonnées les informations liées aux droits d'auteur et aux licences. On a vu aussi l'arrivée des métadonnées fournies par les usagers, les fameux tags. Les normes de description se transforment, on pense ici au RDA, et on se soucie davantage de l'interopérabilité entre les différents schèmes de classification. Alors, ce sont tous des champs qui demanderaient une collaboration soutenue. Au niveau du développement des compétences, il y a eu plusieurs rapports récemment sur les compétences qui sont requises par les bibliothécaires au 21e siècle. Ici, je vous ai mis l'image d'un rapport qui a été publié récemment par l'Association des bibliothèques de recherche du Canada. Donc, on sent vraiment le besoin de développer des compétences nouvelles et de pointe. C'est évident que les associations professionnelles répondent en partie à ce besoin, mais certains volets pourraient être mieux, je pense, couverts par les écoles de bioéconomie et des sciences de l'information, à la fois au niveau du curriculum, mais aussi au niveau de la formation continue. Livre électronique, bon, ici un petit encart qui dit que le livre est mort. On en est vraiment au premier balbutiement au niveau du livre électronique, mais moi, je suis convaincu personnellement que le livre électronique va avoir plus d'impact sur les bibliothèques que l'Internet a pu en avoir. Et donc, de suivre l'évolution du monde du livre électronique, que ce soit au niveau des lecteurs, des formats, des modèles d'affaires, des modèles d'accès, des verrous électroniques, c'est un monde en soi. Quels vont être les effets aussi à long terme sur la collection de l'acquisition par l'usager? Vous savez, ces modèles d'affaires qui permettent aux usagers d'acquérir eux-mêmes les livres électroniques. Mais quel effet ça va avoir sur nos collections de prioriser les besoins immédiats par rapport à l'équilibre de la collection? Alors, c'est tous toutes deux questions qu'on se pose sans avoir la réponse nécessairement. Se réinventer, C'est aussi une belle occasion. Je pense que nous, du côté des bibliothèques, on peut pas vraiment partir, on peut pas avoir une réflexion qui se fasse dans l'abstrait à partir d'une feuille blanche. On est pris avec des schémas de référence, des budgets, des structures organisationnelles. Mais les écoles de bioéconomie, eux, peuvent s'imaginer aujourd'hui, si on avait à débuter ou à mettre en place une bibliothèque, comment le ferait-on? Est-ce qu'on aurait la même structure organisationnelle? Est-ce qu'on aurait les mêmes outils? Est-ce que la répartition du budget se ferait de la même façon? Alors ça, c'est intéressant pour nous d'avoir une réflexion qui soit totalement désincarnée du réel et de voir un peu où ça pourrait nous mener. Et si je fais une publicité avec une plateforme qu'on a mis en place, une plateforme de consultation web qu'on a appelée la Bibliothèque idéale, et présentement, c'est une consultation qui est en cours à l'Université de Montréal. Et si on la grossit un peu. Donc, c'est une mosaïque d'idées qui est soumise présentement à notre communauté. Notre communauté, c'est environ 50 000 personnes. Et là, on a divers projets. Chaque carré présente un projet. Et là, ce qu'on veut faire, c'est à vraiment recueillir les commentaires des gens et à savoir un peu qu'est-ce qu'ils voient, eux, comme bibliothèque idéale. C'est un exercice, ça se fait à partir de la communauté, donc des besoins d'utilisateurs, mais on aurait besoin d'avoir le pendant du côté des écoles de bioéconomie. Quelle serait, pour eux, une bibliothèque idéale en 2010, en 2015, en 2020, en 2025? Fin de la publicité. Évidemment, l'interdisciplinarité, c'est un mot-clé de nos universités d'aujourd'hui, tant du côté de la recherche que des programmes d'enseignement. Ça nous interpelle sur plusieurs plans. D'abord, de comprendre ne serait-ce que les domaines qui sont en émergence et les chercheurs qui sont au cœur de ces développements, la bibliométrie au soutien de la recherche. Comprendre aussi les besoins des étudiants et des chercheurs. Pour favoriser l'interdisciplinarité, il faut se familiariser les étudiants et les chercheurs aux outils de recherche et aux canaux de communication savante des disciplines qui ne sont pas les leurs, donc il faut les familiariser. Nous autres aussi, il faut repenser notre formation documentaire pour des équipes interdisciplinaires. Il faut revoir aussi la façon que nous avons de penser les développements de collections et la façon de les mettre en valeur, surtout pour les ressources qui sont aux frontières de plusieurs disciplines. Un autre volet, c'est comprendre les utilisateurs. On en a parlé hier. Il y a eu plusieurs études de comportement qui ont été publiées récemment, depuis les dernières années. D'ailleurs, c'est la mode. Mais la première étape, c'est de valider est-ce que ces études-là, qui ont été faites en général, se reflètent dans notre communauté? Est-ce que ça se reflète pour toutes les disciplines? Parce qu'on sait très bien qu'un musicien ne cherche pas fait pas une recherche informationnelle tout à fait comme un sociologue et un sociologue pas tout à fait comme un mathématicien. Donc, il y a des différences disciplinaires, donc il y a un intérêt là à voir est-ce que ces études-là, on est capable de valider les résultats à l'intérieur de notre institution. Il y a des recherches ethnographiques aussi qui pourraient fournir des indications plus précises sur les processus et la manière que les membres de notre communauté utilisent nos services, utilisent les ressources informationnelles, qu'elles viennent ou non de la bibliothèque. Comprendre les attentes et les préférences. Les attentes, les préférences et les comportements des usagers. Qu'est-ce qui affecte leur satisfaction? La disponibilité, la qualité des ressources, la convivialité, bon, etc. Comment ils utilisent l'environnement de recherche? Comment ils formulent leur stratégie de recherche? Comment ils gèrent et diffusent la connaissance qu'ils produisent? Alors, c'est toutes des questions auxquelles on pourrait travailler ensemble. Préservation de la connaissance. Avec l'arrivée du numérique, de poursuivre le développement de la préservation du numérique à long terme, c'est pas une question évidente. D'étudier aussi et de recenser les diverses approches collaboratives qui existent pour la préservation du numérique et de l'imprimé. Il faut s'intéresser plus particulièrement à la facilité d'accès aux documents, aux stratégies envisagées de la préservation et la pérennité probable du modèle d'affaires proposé. Parce que souvent, on regarde la préservation du numérique sur une optique technologique. On se présume pas beaucoup de la viabilité économique. Et c'est ce qui va faire en sorte que ça va être préservé à plus ou moins long terme. Donc, il y a une question là importante. Quels sont aussi les impacts légaux de chacune des approches qui sont retenues? Il y a beaucoup de projets qui se font en collaboration actuellement, mais si au Canada, on repose sur un système qui est américain, qu'est-ce que ça veut dire si les choses dans 50, le contexte politique ou dans 100 ans changent? Est-ce que nos données qui sont sur un serveur américain vont toujours être accessibles? La question se pose. Le libre accès, évidemment, est un autre domaine qui est d'intérêt, donc de promouvoir et de soutenir la diffusion libre des extraits de la recherche. Et les extraits, ça peut être des articles publiés, ça peut être la littérature grise, les présentations, les thèses, les données de recherche, etc. Étudier aussi les obstacles au libre accès dans notre communauté, puis élaborer des stratégies pour les surmonter. Concevoir et faire cheminer une politique institutionnelle pour le libre accès auprès des instances, c'est un autre champ d'intersection. Mettre en place un service de soutien aux auteurs, parce qu'aujourd'hui, on met des dépôts en place, mais on leur donne pas d'outils pour les aider à faire en sorte que leur publication se retrouve sur ce dépôt-là. Et démystifier, bon, toutes les questions d'impact de la recherche en lien avec le libre accès et les modèles possibles pour favoriser le rayonnement de la recherche. Alors, je voulais pas passer ici en donnant seulement des pistes potentielles, mais je voulais aussi donner quelques exemples d'une expérience vécue, donc ce qu'on a fait jusqu'à présent avec les écoles de biotéconomie. Alors, au niveau du recrutement, cette année, même Michel est ici, on a invité un professeur de l'école à un comité de recrutement pour un poste de direction. Ça a été, je pense, positif de part et d'autre, d'abord pour connaître, ça nous a permis de faire connaissance, mais aussi d'évaluer un peu de mieux évaluer le potentiel des candidats en termes de vision. Au niveau du recrutement aussi, évidemment, comme toutes les bibliothèques, on embauche des stagiaires, donc ça nous permet de connaître les futurs professionnels et eux, ça leur permet de nous connaître. On a fait aussi différents projets de bibliothèque et dossiers institutionnels. Donc, au niveau des projets de bibliothèque, on a intégré un étudiant dans un comité qui s'intéressait aux outils de découverte. Ça a été très profitable, encore une fois, de part et d'autre. Au niveau des dossiers institutionnels, on a collaboré ensemble au début des années 2000 pour faire cheminer une politique institutionnelle de formation à l'utilisation de l'information. Donc, c'est un travail qui a été fait en collaboration avec l'EBSI. Au niveau de l'évolution du curriculum, la même chose, c'est qu'on a, on essaie d'alimenter l'école sur les besoins en milieu de travail et la réponse est assez positive. Un exemple, c'est les bibliothèques de la santé avaient rencontré l'EPSI il y a quelques années pour faire en sorte qu'il y ait un peu plus de formation sur les ressources en santé. Ça a été intégré au cours. Formation continue des bibliothécaires. À chaque année, on organise une journée de réflexion à l'intention de nos professionnels et assez souvent, on invite des chercheurs de l'EPSI pour faire la jonction entre les deux mondes. On participe évidemment aussi à la formation des étudiants. C'est traditionnel et connu, mais on est un milieu d'accueil pour les stagiaires et un terrain d'étude aussi pour leurs cours et les travaux qu'ils ont à faire. Il y a plusieurs de nos bibliothécaires aussi qui sont chargés de cours à l'EPSI, donc qui permettent de faire un certain pont entre les deux. Au niveau de la recherche, c'est plus difficile. C'est sûr qu'on bénéficie des résultats de la recherche qui sont faits par les écoles de biotéconomie et de l'autre côté, l'école fait appel à nous comme terrain d'investigation courant. Mais cependant, je dirais que la collaboration étroite entre les bibliothèques et l'école sur des projets précis de recherche est un volet qui est assez difficile à concrétiser. Parce que c'est difficile de réconcilier les contraintes de chacun. Les écoles ont des chercheurs chevronnés, mais la recherche doit passer le plus souvent par une demande de subvention, donc une DAX fixe dans l'année, plusieurs mois avant la réponse, bon, etc. Et le projet de recherche s'échelonne sur plusieurs années. Dans les bibliothèques, on a peu de personnes aguerries à la recherche, et les besoins de résultats de recherche sur un sujet doivent orienter l'action, sont davantage à court terme. On travaille sur un an ou sur deux ans au maximum. Donc, c'est difficile d'arrimer les deux. Un volet plus pratique peut être de collaboration et qui a fait l'objet dans le milieu des bibliothèques académiques et celui d'outiller les bibliothécaires, on en a parlé, pour faire de la recherche. Donc, mieux les outiller. Et aussi, de notre côté, on peut penser à la possibilité d'offrir des contrats aux doctorants pour travailler sur des projets spécifiques. Donc, il y a peut-être des voies là aussi à explorer. Alors, en conclusion, Je vais revenir avec mon graphique du départ. Donc, si on regarde tout ce qui tourne autour du contexte politique global qui s'affiche tranquillement à l'écran, bien, il y a plusieurs éléments dans le contexte environnant les lois, les politiques, les coûts, etc. Et j'ai abordé plusieurs intersections possibles où il y aurait, selon moi, des possibilités de travailler ensemble. Je pense que la liste que je vous ai présentée aujourd'hui est certainement utopique, sinon est ambitieuse, du moins. Quel volet s'attaquer en premier et comment, pas évident d'y répondre, mais je pense que la première étape, et c'est le colloque, c'était l'objet du colloque d'aujourd'hui, c'est de s'apprivoiser, de se connaître mutuellement un peu mieux, de savoir quels sont les objets de part et d'autre, quelles sont nos préoccupations comme bibliothèque universitaire, quels sont les domaines de recherche des professeurs à l'École d'économie, quels sont leurs intérêts. Et je pense que d'abord, un rapprochement va faire en sorte, un rapprochement des équipes va faire en sorte que les meilleurs projets vont naître presque naturellement. Merci.